podcasts d'AFDS.tv, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.tv, Alexandre Marlier.
En 1993, s'ouvre le procès de Jean-Marie Villemain. Il s'agit du papa du petit Grégory, enlevé et assassiné en 1984. Il est accusé du meurtre de son cousin, qu'il tenait responsable de la mort de l'enfant. Tout au long du feuilleton L'affaire Villemain, que l'on traite aujourd'hui, les images du procès seront mixées à la reconstitution des événements de 1984. La série tente ainsi de comprendre ce qui a pu se passer, tout en revenant sur la folie médiatique qui a entouré ce fait divers. Une série de 6 épisodes, créée en 2006, est diffusée pour la première fois sur France 3. Pour nous en parler aujourd'hui, c'est Sarah Sepulcre.
Bonjour.
Et pour en discuter, Lise-Marie Cassard.
Bonjour.
Et Nathanaël Picasse.
Bonjour.
Bon, l'affaire Villemain est évidemment mieux connue sous le nom de celle du petit Grégory, une affaire qui a débuté malheureusement le 16 octobre 84 et qui a marqué les médias pendant 20 ans. On en parlait encore il n'y a pas si longtemps que ça. Faut un minimum que je parle de cette affaire évidemment pour vous parler de cette série, ça paraît logique. Je vous rebrosse en quelques mots l'histoire de cette enquête et du petit Grégory et de ses parents pour être sûr que tout le monde comprenne bien, en sachant que c'est très compliqué et je ne vais pas vous parler de tout non plus. Alors ceux qui se souviennent, le 16 octobre 84, le petit Grégory disparaît, on le retrouve dans la nuit, noyé dans une rivière. L'enquête se tourne d'abord vers un cousin de Jean-Marie Villemain, le père. Le cousin est appelé Bernard Longuet dans la fiction. Il faut savoir que tous les noms des protagonistes ont été changés, à l'exception de ceux des deux parents et de Laurence Lacour, qui est une journaliste. Je vous expliquerai pourquoi plus loin. Et donc, Bernard Longuet, dans la fiction, le cousin du père Villemain, est soupçonné, sur base d'un témoignage de sa belle-sœur à lui, qui s'appelle Brigitte dans la fiction. Brigitte se rétracte et l'enquête s'enlise. Effectivement, à partir de là, on a un magistrat instructeur incompétent, des journalistes qui mettent leur nez partout, et qui, d'ailleurs, prennent d'assaut carrément cette petite ville et tous ses habitants pour avoir le moindre scoop. Une famille qui a des comptes à régler et des choses à cacher. Un corbeau qui décide de leur envoyer des lettres. Le corbeau avait déjà menacé cette famille-là, pas uniquement les parents du petit Grégory, mais toute la famille. Et puis des enquêteurs qui sont décidés à partir d'un certain moment à voir dans la mère, Christine Villemain, une femme machiavélique. On est donc bel et bien face à un ingrédient d'un marasme judiciaire qui sont présents dès le début de l'histoire et dans la réalité. Les époux Villemain vont très vite se retrouver au centre des soupçons, au point que Jean-Marie, le père, perd la foi en le système judiciaire, une fois que sa femme est arrêtée, en fait, et décide d'abattre lui-même, de se faire justice, et il abat lui-même son cousin, qu'il tient comme responsable de l'enlèvement et du meurtre de son fils. C'est d'ailleurs, comme tu l'as dit, à partir du procès de Jean-Marie Villemain que débute cette fiction. En fait, qu'est-ce qu'on voit au tout début du feuilleton ? On voit les journalistes qui font des témoignages dans le procès de Jean-Marie Villemain pour meurtre. Et c'est à partir de ces témoignages de journalistes qu'on revient dans les années 84. Donc ce ne sont pas les vraies images du procès qu'on voit. À aucun moment on ne voit des images d'archives, sauf de temps en temps pour faire des liens. On revoit un présentateur du JT par exemple, etc. On ne voit pas de vraies images, mais c'est à partir de cette reconstitution de 93 qu'on revient de temps en temps dans l'année 84, puis 85, 86, puisque c'est une affaire qui s'étale sur plusieurs années.
Et si je me rappelle bien, la façon d'amener ces images d'archives était assez bien faite, parce que par exemple, on voyait les images d'archives quand une partie de la famille regardait la télévision. On comprend tout à fait que ce qui regardait la télévision, c'était vraiment le journal de l'époque et de l'archive, et donc je trouve que c'était finement amené et que ça permettait aux spectateurs de sentir la différence entre réalité et fiction.
C'est en tout cas effectivement une série qui ne pose jamais le doute sur les images qu'on est en train de regarder. D'autres peuvent en poser, je pense à certains docufictions, par exemple sur le 11 septembre, où on ne sait pas très bien si on est face à des images de reconstitution ou de la réalité. Ici, c'est jamais le cas. Il y a certaines images qui effectivement font référence à la réalité, à des images du réel, qui sont fixées dans nos mémoires. Je pense, moi je me souvenais de cette image du policier qui sort le corps du petit Grégory de l'eau, et effectivement, dans la fiction, ce moment-là est figé à un moment comme si c'était une image de presse, et donc ça fait totalement un lien, mais c'est suggéré, ça n'est jamais mélangé.
Mais justement, est-ce que par le fait que cette affaire reste, j'ai l'impression, un énorme traumatisme pour la France, les producteurs n'étaient pas obligés justement de la traiter de cette manière?
Je pense qu'il y a eu effectivement certaines prudences qui ont été prises. Je pense aussi qu'on ne peut pas faire autrement avec une histoire qu'un retentissement tel. Je pense qu'il y a des libertés qui n'auraient pas pu se permettre. Et donc effectivement, comme tu le sous-entends, c'est un fait tiré d'une histoire réelle, mais c'est beaucoup plus lourd que ça. C'est plus qu'un fait, c'est un fait divers. Je pense qu'en Belgique, si on devait aujourd'hui adapter l'affaire Julie et Mélissa, ça ne serait pas évident. Ça a d'ailleurs été fait et ça n'est pas bien passé. Il faut savoir d'ailleurs que Raoul Peck lui-même n'avait pas du tout envie de se pencher sur ce fait divers. Donc au départ, c'est Laurence Lacour, qui est une journaliste qui a couvert l'affaire et qui a après écrit un livre sur cette histoire qui lui a proposé d'en faire un film. Au début, il a accepté de déposer le projet pour qu'il ne soit pas pris par quelqu'un d'autre, mais il dit « j'avais pas du tout envie de travailler à ça ». C'est parce qu'ils ont rencontré les époux Villemain, qu'ils ont été marqués par ces personnes, leur dignité, l'amour qui les lie encore maintenant, qui se sont dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire, mais ils ont pris tout de suite la décision de ne rien inventer. On le sait qu'il y a parfois des fictions inspirées du réel dans lesquelles on invente des parties. Je pense par exemple à « Il voulait tuer De Gaulle » où c'est l'histoire d'un attentat contre le président de l'époque en France et où certaines parties de la vie du terroriste qui essaye de l'assassiner ne sont pas connues et où on se permet de romancer certaines parties. Ici, ils ont dit évidemment on n'a rien voulu inventer. Ils ont utilisé les archives personnelles de Laurence Lacour, la journaliste en question, des époux Villemain et les procès-verbaux dans lesquels ils disaient tout était déjà là, les personnages étaient présents déjà dans ces procès-verbaux. Et donc voilà. Raoul Peck, c'est une personne qui a réalisé par exemple Lubumba au cinéma, qui est un film qui aussi parle de l'assassinat du leader congolais. Il a aussi fait un film sur le Rwanda et le génocide. Il dit « J'aime beaucoup cette idée de prendre la réalité et de coller aux faits parce que la réalité est plus intéressante que la fiction. » Il dit qu'avec cette affaire Villemain, il n'a jamais été aussi proche de cette démarche de coller à la réalité et que c'était très important pour lui. Ce que je vous lis là à propos des propos de Raoul Peck est tiré de la Gazette des scénaristes numéro 28. Je pense qu'il y a un numéro, notamment ce numéro-là sur le réel et la fiction, et un article complet sur l'affaire Villemain que je vous conseille. Voilà. Je vous ai déjà plusieurs fois parlé de presse. On va y venir parce que je pense que c'est aussi un élément important dans cette affaire Villemain. Je vous propose d'écouter le moment de l'enterrement du petit Grégory et des réactions qui sont intéressantes des journalistes là aux alentours. Vous allez entendre une journaliste d'Europe 1, Laurence Lacour, un journaliste d'RTL. Vous allez aussi entendre par exemple un moment où la mère s'évanouit, je pense que c'est important de le dire parce que je ne suis pas sûre que le son soit porteur, et tous les petits bruits des clics que vous entendez, ce sont les photographes de presse.
RTL avec le père.
Ah oui. Vous venez avec ma chérie.
Tu sais ce que les gens disent ? Que l'assassin est là, dans la foule.
Ah oui. Pas possible.
J'ai envie de participer à tout ça. Moi, j'ai envie de me casser.
Tu le connais bien, toi, Cassini ?
Moi ? Cassini, la momie casquette. RTL, François, Le Figaro. Le premier sur tous les coups. Pourquoi ?
Il est cynique, ce mec.
Ouais, mais efficace. Avec sa femme, un vrai rouleau compresseur. Lui, il est sur le terrain, elle est la rédige.
Sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et pardonnez nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont
offensés. Le bim, le tobib.
Aidez-moi.
Tu sais, on en a vu des mères faire du cinéma dans un cimetière.
Pardon ?
C'est elle. C'est elle.
Aidez-moi ! Aidez-moi à la porter !
Aidez-la ! Laissez-lui passer !
Gardez-vous !
Laissez-lui passer !
Difficile de voir, mais on entend quand même toute l'horreur que peut apporter la présence de la presse comme ça, un enterrement.
Visuellement, c'est dommage qu'on en... C'est rare que je dise c'est dommage qu'on en radio, mais là, visuellement, c'est une scène qui est abominable. On a la famille qui est au milieu de ce cimetière, on a des photographes qui sont debout sur tous les murs du cimetière, on a des journalistes partout dans ce cimetière, sur les tombes, etc. C'est assez oppressant même pour un téléspectateur. Et effectivement, on sent déjà à ce moment-là que les journalistes prennent parti, sont pour ou contre, et notamment Laurent Casini, qui est journaliste d'RTL, qui décide dès le départ que la mère est coupable. Et ça s'entend déjà à l'enterrement, il dit de toute façon ce sont eux. Et quoi que cette mère fasse, son avis n'en changera pas. Elle s'évanouit à l'enterrement, c'est qu'elle en fait trop. Si elle refait un enfant quelques années après, c'est que sûrement elle n'est pas triste. Et donc quoi qu'elle fasse, c'est mal interprété par ce journaliste. Raoul Peck lui-même fait aussi le lien avec l'affaire Doutreau, où il dit « la presse a joué aussi un rôle de caisse de résonance ». Qui peut être bon, mais qui peut de temps en temps déraper sur ce genre d'affaires dans ce cas-là. Évidemment, c'est ça qui est intéressant aussi dans ce feuilleton, et moi c'est ce qui m'a assez bien marqué, c'est qu'on dépasse le fait divers et le meurtre d'un enfant pour poser un regard sur cette société médiatique dans laquelle on était déjà et dans laquelle on est encore maintenant. C'est donc plus qu'un fait divers, parce que finalement les faits divers dans la fiction, on connaît depuis Le Rouge et le Noir. Le Rouge et le Noir est inspiré d'un fait divers réel. Et ici, on voit qu'on dépasse vraiment ce sujet-là. Et c'est d'ailleurs intéressant de voir que c'est là-dessus que la fiction s'ouvre. On n'ouvre pas sur le meurtre du petit Grégory ou de la découverte du corps. On ouvre sur des journalistes qui témoignent durant un procès. Et qui témoignent en disant « j'étais jeune, j'avais 24 ans, j'étais pas préparée à faire ça ». Et j'ai crié avec la meute. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant à ce niveau-là. Alors, il y a plusieurs journalistes, je vais peut-être vous brosser leurs portraits rapidement. Laurence Lacour est donc journaliste à Europe 1, radio. Elle est jeune journaliste à l'époque, elle est partie pour 2 jours, elle restera 2 ans. C'est elle qui dit qu'elle avait 24 ans et qu'elle n'était pas préparée et qu'elle s'en veut d'avoir cédé au bruit de la meute ou d'avoir bafoué la présomption d'innocence plusieurs fois, parce que la présomption d'innocence, elle prévaut évidemment pour les époux Villemain, mais elle prévaut aussi pour le cousin qui sera lynché également par la presse. Pierre Thomas est un journaliste pour Libération, un ami de Laurence, qui paraît assez modéré dans ses propos et très vite paraît être plutôt du côté des parents. Jacques Servet couvre l'affaire pour Paris Match, donc Paris Match, le choc des photos et le poids des mots, ou c'est l'inverse, je ne sais plus. Lui aussi dit qu'il était parti pour 5 jours et qu'il est resté 5 ans. Il dit, durant le procès, qu'à plusieurs moments, ils sont devenus acteurs de l'affaire à leurs dépens. Il faut savoir que Jacques Servet, en fait, a eu l'opportunité, grâce à des contacts policiers, d'avoir un enregistrement du procès-verbal de Brigitte, au moment où elle dit « ben voilà, c'est mon beau-frère qui a pris le petit Grégory ». Il le fait écouter aux époux Villemain, en les prenant en photo pour le Paris Match pendant ce moment-là, et juste après, Jean-Marie lui dit « qu'est-ce que tu ferais à ma place ? À ta place, je le tuerais ». Et donc, il se rend compte à ce moment-là que les époux Villemain, c'est leur projet.
Adossel, on s'est arrêté sur
Arrête. Je peux pas entendre plus.
T'as des enfants ?
Pourquoi ?
Tu ferais quoi à ma place ?
Je peux pas me mettre à ta place. Mais moi, ce serait mon fils. Le mec, je le descendrai.
Tu l'as dit toi-même. Les gendarmes disent pareil. Tout le monde nous le dit.
On s'est dit aussi, on sait comment faire.
Ouais, mais non, mais nous, ça nous coûte rien de le dire, tu comprends, ça? Toi, tu penses à ta femme.
Non, mais moi, j'y vais aussi pour faire la peine avec Jean-Marie.
On met pas les hommes et les femmes ensemble en prison.
C'est pas la question.
On va le faire cette nuit.
Déconne pas. Pas comme ça, pas à l'aveuglette. Moi, si tu veux, je peux voir ses horaires.
On les connaît, ses horaires. S'il avait 5 heures pour aller à l'usine.
Cressine le bloque avec la voiture quand il arrive au monument aux morts. Et moi, je tire.
Vous êtes des gosses et vous allez foutre votre avenir en l'air. Moi, je peux pas vous laisser faire ça.
Ok, t'as raison. C'est peut-être un peu monté la tête. On va pas le faire.
Sérieux?
T'en fais pas. Je te ramène à ta voiture.
Tu vas te blesser.
Faut pas. Vous irez en prison, faut laisser faire la justice.
La justice? Mais tu la vois où, toi, la justice?
Alors c'est moi qui dois y aller. Moi, j'ai fait ma vie.
C'est à nous de le faire. Donnez-moi ça. Donnez.
Donne-lui, maman.
Non. Puis après tout, c'est votre gosse.
Et effectivement, il va les empêcher. Il va les empêcher de le faire ce soir-là. Ça n'empêchera pas Jean-Marie de le faire plusieurs mois plus tard. Mais ce soir-là, effectivement, on se rend compte que s'il n'avait pas diffusé cet enregistrement-là, peut-être que la goutte d'eau n'aurait pas fait déborder le vase. Et que les journalistes, à plusieurs moments, lui n'est pas le seul, à plusieurs moments dans cette affaire, sont effectivement les gouttes d'eau qui font déborder le vase.
Et c'est vrai qu'à de nombreuses reprises, on sent vraiment les journalistes qui prennent parti. Il y a vraiment ceux qui soutiennent et qui deviennent presque amis. Je pense que c'est le cas de Laurence Lacour, hein, qui deviennent presque amis avec les Villemain et les autres.
Je vois aussi ça avec l'acharnement aussi des journalistes, parfois dans certaines histoires. Ici, c'était dans un autre cadre, mais je vois ça par exemple avec les journalistes avec Britney Spears. Bon, c'est pas des journalistes, c'est des paparazzi, mais quand même, il y a quand même un acharnement des médias autour de cette personne. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, au moment où on se dit elle va craquer et apprendre par exemple que sa rubrique nécrologique est déjà écrite parce qu'ils savent qu'ils vont la pousser à bout pour un moment à ce qu'elle arrive au suicide, c'est quand même terrible, je trouve.
Et dans cette affaire-ci, on est aussi face à des journalistes qui font avancer l'affaire. C'est assez intéressant, c'est par leur témoignage que petit à petit les choses se déroulent. Et je pense notamment, par exemple, à un moment, un journaliste de Détective arrive. Vous voyez Détective, le magazine de faits divers, policiers, etc. On se dit, oulala, là on va sûrement tomber dans le plus graveleux du graveleux. Et en fait, lui démontre que il s'y connaît. Les autres disent, t'étais pas là au début, parce qu'il arrive quelques mois après. Il dit, mais attendez, moi je viens de refaire le trajet de Christine ce soir-là, c'est impossible qu'elle ait enlevé son enfant, parce que pour faire ça et ça en bagnole, ça fonctionne pas. Il dit aussi à d'autres moments, l'avocat demande aux parents de faire des photos pour montrer un autre visage d'eux que des visages autour d'un cercueil, etc. Et dit, mais ces photos, c'est une grave erreur, elle va en prendre pour 20 ans, non pas parce qu'elle est coupable ou pas, mais parce qu'elle a fait des photos où elle sourit dans Paris Match. Et donc, petit à petit, ce sont les journalistes qui permettent de faire comprendre aussi ce qui est en train de se passer là autour.
Et en parallèle à ça, donc, on ne suit pas uniquement la vie de la famille Villemain, il y a aussi la vie des journalistes.
On suit en fait tout ce microcosme qui se crée dans ce village. Alors effectivement, les époux Villemain sont une part importante de ça, mais on suit aussi les journalistes, on suit aussi les magistrats ou les enquêteurs. On ne les suit pas dans leur vie, on les suit dans ce qu'ils apportent au fil de l'enquête.
Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de huis clos qui finit par se faire ?
Il y a de toute façon une impression de huis clos autour de cette affaire, parce qu'effectivement on sent qu'ils ont vécu dans une espèce de milieu, surtout au début, on sent que les journalistes affluent et qu'il se crée une espèce de chape de béton autour de ce village qui sera cassée à partir du moment où Marguerite Duras vient, parce que vous savez que Marguerite Duras a été envoyée par Libération, n'a pas pu rencontrer les parents et a fait un article absolument abominable sur Christine Villemain, sans avoir rencontré Christine Villemain. Un article que même maintenant beaucoup de gens reprochent un peu à Libération, c'est une autre histoire. Et donc à partir de ce moment-là, on sent que ça se réouvre. Finalement, les gens, le ministre de la Justice, commencent à s'interroger sur l'affaire médiatique qui se crée autour de ça et qu'ils disent eux-mêmes, c'est trop tard. Malheureusement, la spirale médiatique est en place et c'est trop tard. C'est aussi à ce moment-là qu'on décide de faire juger Jean-Marie Villemain par la cour de Nancy, où un autre juge reprend l'affaire parce que c'est un appel et où l'enquête va vraiment devenir une vraie enquête, alors qu'avant c'était plutôt dérapage et compagnie. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on sent finalement plein de questions déontologiques autour de la place des journalistes. On sent qu'il y a des clans, peut-être que c'est pas aux journalistes de prendre parti dans ce genre de choses. On sent qu'il y a une guerre des rédactions pour obtenir certains scoops, avoir les parents quand on a quelque chose, une décision tombe, qu'est-ce que vous en pensez, etc., etc. On voit aussi que les rédactions prennent des places qu'elles ne devraient peut-être pas, puisque l'avocat des parents est envoyé par Europe 1, par exemple. Est-ce que c'est vraiment une rédaction journalistique d'envoyer un avocat pour aider les parents? On voit aussi que Cassini, le journaliste de RTL qui décide de la culpabilité de Christine Villemain, est un grand ami du commissaire qui reprend l'affaire en main. Et donc effectivement, ce qu'on voit là derrière, c'est une véritable critique qui se situe au niveau des médias, une critique qui ne protège personne, parce que effectivement, on déteste Cassini, le journaliste d'RTL, ça nous donne la vision d'un être qui a décidé dès le départ qu'il était coupable, mais c'est pas le seul qui est égratigné par cette fiction. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que ça n'est pas une simple critique de la presse, c'est aussi une critique par la presse de ses pratiques plus constructives que de dire vous vous êtes mal comporté. Et ça, je trouve que c'est intéressant dans cette série. Je vous ai parlé de l'affaire Villemain, du rapport au réel et du rapport aux journalistes. C'est pas si simple que ça. Je vous ai déjà parlé de reporters, par exemple, et je vous ai dit que la série faisait pas que parler du réel, qu'on était dans des rédactions, mais des rédactions qui faisaient très fort penser au réel, et notamment à Florence Aubenas, au contexte dans le gouvernement Sarkozy, etc. Mais que ça allait plus loin, parce qu'il y avait une propre interprétation des faits par cette série. Bien, ici, on est dans quelque chose qui ressemble un peu à ça. Évidemment, on est dans un rapport au réel, mais c'est moins simple qu'il n'y paraît. Alors, la différence, c'est que c'est annoncé dès le départ. C'est-à-dire que vous avez un teaser avant le générique, et puis directement un panneau qui vous dit « Grégory Villemain est mort le 16 octobre 84, son corps a été retrouvé dans la Vologne ». Cette fiction est adaptée de deux romans, celui de Laurence Lacour, journaliste à Europe 1, « Le bûcher des innocents », et celui de Jean-Marie et de Christine Villemain, qui s'appelle « Le 16 octobre ». Et donc, effectivement, dès le départ, on est face à quelque chose qui annonce la couleur. Raoul Peck, qui est donc le créateur, se défend complètement d'avoir défendu un point de vue dans ce feuilleton. Il dit qu'il n'a pas voulu prendre un parti, qu'il a justement voulu dépasser ce pour ou contre qui pèse sur cette affaire et qu'il faudrait dépasser selon lui. Il a voulu se placer dans différents points de vue, ceux des journalistes, du juge, des gendarmes, et qu'il n'a pas voulu enfoncer des personnes parce que, dit-il, elles s'enfoncent d'elles-mêmes. Et donc on voit bien que même s'il n'a pas voulu prendre parti, il y a quand même des personnes qui s'enfoncent d'elles-mêmes. Moi je trouve que c'est assez clair. Même s'il ne développe pas effectivement un plaidoyer avec des arguments pour et contre, on est quand même, malgré tout, dans un certain point de vue, celui développé par Laurence Lacour, les parents de Grégory Villemain. Laurence Lacour qui est effectivement, comme Lézine disait, devenue une amie du couple Villemain.
On se doute bien, en se basant sur ces deux livres-là, on voit quand même dans quelle direction on se dirige inévitablement. Il y a un parti pris, même s'il dit que non, mais... À partir du moment où il se base sur les deux livres, c'est inévitable.
C'est complètement inévitable. Et même s'il se base sur les PV, on voit bien que, au fur et à mesure de l'histoire, tous les PV de procès ne sortent pas, par exemple. Et c'est vraiment, vraiment, dans le dernier épisode, par la manière qu'ils ont de mettre en évidence le dernier entretien avec Brigitte, donc la fille qui a témoigné contre son beau-frère, le cousin de Jean-Marie, puis qui se rétracte, on voit bien qu'effectivement, ils semblent annoncer qu'eux aussi vont dans cette thèse que celui qui est appelé Bernard Longuet dans la fiction est coupable et qu'elle n'est peut-être pas aussi innocente que ça dans l'enlèvement du petit Grégory, même s'il était jeune à l'époque. Il faut savoir que, et ça c'est important que je le dise, Jean-Marie Villemain a été jugé coupable du meurtre de son cousin et a payé sa peine, mais qui n'a pas d'affaire judiciaire dans l'affaire Grégory. Elle est toujours ouverte, on ne sait toujours pas maintenant qui l'a enlevé, qui l'a assassiné, qui aura prescription en 2011. Et donc, que ce qu'on nous présente ici n'est pas une vérité judiciaire. Ça, c'est important, je pense, de le dire. Et il faut savoir aussi que la veuve du cousin, donc qui en fait s'appelle Bernard Laroche dans la réalité, et Muriel Boll, qui est donc en réalité le personnage de Brigitte, n'ont pas du tout apprécié cette fiction, ont essayé plusieurs fois d'abord d'en avoir un droit de vision avant qu'elle ne soit diffusée, et ensuite, parce qu'elles ne l'ont pas obtenu, la justice ayant considéré qu'il n'y avait pas de danger imminent, les cas de censure en France, donc de contrôle a priori, sont très rares, et donc le juge a décidé qu'il n'y avait pas de menace imminente ou de danger imminent, et que donc cette fiction pouvait être vue. Évidemment, a posteriori, elles ont porté plainte pour diffamation contre la France Télévisions.
De toute façon, ne pas le faire aurait été un aveu.
Oui, elles auraient pu décider de ne pas porter plainte contre la fiction parce que finalement les scénaristes ont droit à la liberté d'expression. Mais effectivement, je pense que ça fait partie de leur droit de porter plainte. En gros, les arguments sont d'un côté diffamation, ce à quoi l'avocate de France Télévisions a répondu qu'en fait, il n'y avait pas diffamation selon elle, mais que la famille analysait de manière subjective un certain nombre de scènes et que la mini-série n'avait pour but que de montrer un dérapage médiatique et un dérapage judiciaire. Évidemment, la subjectivité peut aller dans les deux sens, d'où la sensibilité de ce type de fiction, à mon avis, a priori, sur l'affaire Villemain. Mais moi, ce que j'apprécie dans celle-ci, c'est d'abord qu'elle donne dès le départ ses sources et que donc elle peut permettre aux téléspectateurs d'avoir les cartes en main pour se faire sa propre opinion. Et je ne cesse de dire très souvent qu'il ne faut pas regarder les fictions en déposant son cerveau sur la table du salon. Je pense que c'est le cas ici aussi. Et je pense que très vite, on se rend compte qu'on est dans une thèse, qu'on favorise certains journalistes. Mais il faut évidemment peut-être pas s'arrêter à ça et se dire, ben voilà, c'est une manière de voir les choses. Alors pour conclure sur cette fiction, je voulais simplement vous dire que j'avais extrêmement peur au moment de la regarder. Je me suis dit, oulala, ça peut être le truc le pire du monde. J'avais peur évidemment du sensationnalisme, du traitement réducteur que ça peut offrir, parce que 20 ans d'affaires réduits en 6 heures de fiction, ça ne peut que être simplificateur. J'avais aussi peur parfois de cette fiction française un peu bavarde et pédagogique, lourde. Eh bien j'ai été surprise en bien, parce que je trouve que le travail de Raoul Peck et Pascal Bonitzer, que je ne connais pas, j'ai pas vu Lubumba et j'ai pas vu les autres films de ce duo, mais je trouve qu'ils sont respectueux des protagonistes, même parfois pour les plus louches, comme le magistrat instructeur du début, ou la jeune témoin elle-même, Brigitte. Je trouve qu'il y a malgré tout un certain respect vis-à-vis d'elle. Je trouve qu'ils sont aussi respectueux des faits, apparemment, et je trouve qu'ils sont respectueux des téléspectateurs, ce qui me semble important. Ils ne sont pas tombés dans le trash. Et ça, j'apprécie vraiment vis-à-vis de ce genre d'histoire. J'aurais vraiment pas aimé être face à du graveleux, etc. Et ça, je trouve qu'ils s'en sont bien sortis.
Retrouvez Aux frontières des séries sur le web www.afds.tv.